Chapitre 41. Vixen habitait Jersey depuis plus d'un an. Elle avait vécu, sans se plaindre, une existence solitaire et monotone. Quel triste exil ! Mais, après tout, qu'avait-elle à faire de la vie, sinon supporter patiemment le fardeau des longues et lentes journées oisives, jusqu'au moment où sa majorité lui rendrait l'indépendance et le droit d'aller où bon lui semblerait ? Alors elle ne serait plus confinée dans ce jardin de Jersey que la mer emprisonne, et le vaste monde s'ouvrirait devant elle, libre de la parcourir à son gré. Elle avait ses raisons pour subir paisiblement cette existence terne et fade. Mrs. Winstanley la tenait au courant de tout ce qui se passait dans le Hampshire, et même à Kensington, dans la maison style Reine Anne que les Dovedale avaient habitée pendant la season. Elle savait que le mariage de Roderick Vaudrey était fixé au 1er août. Ne valait-il pas mieux qu'elle fût cachée bien loin, oubliée de tout son petit cercle, tandis que les cloches de la fête nuptiale éveilleraient les échos de sa chère forêt? Son sacrifice n'aurait pas été inutile. Son amie d'enfance n'avait pas tardé à oublier ce moment de folie, cette nuit d'été dont elle gardait le souvenir. Il était retourné à ses devoirs, à ses engagements. Pas un nuage au ciel des deux fiancés, pas le moindre germe de dissentiment entre les deux cousins. Si quelque accroc se fût produit, Mrs. Winstanley l'aurait su et l'aurait dit. Or, d'après ses lettres, l'accord était parfait entre les deux fiancés, et leur mariage s'annonçait sous les plus heureux auspices. « Lady Mabel est plus jolie que jamais », écrivait Mrs. Winstanley vers la fin de juillet. « Elle a toujours cette grâce éthérée que j'admire tant, une taille à tenir entre les deux mains. Je ne sais qui l'habille, mais ses robes lui vont à merveille, il faut en convenir, quoique pour ma part, je ne les trouve pas d'une coupe aussi pure que les toilettes de Théodore. » Il est vrai que le cachet des toilettes de Théodore tenait pour beaucoup aux idées que je lui suggérais. J'ai entendu dire que le trousseau sera quelque chose d'étonnant. La lingerie notamment, d'un style absolument nouveau, tissée tout exprès à Bruges, d'après des dessins inédits sur des métiers qui ont été brisés après besogne faite. Voilà du moins ce qu'on raconte, mais peut-être y a-t-il là quelque exagération. Les dentelles, d'une finesse et d'une beauté incomparables, ont été exécutées dans le comté de Buckingham sur des modèles du siècle dernier. Tout est, paraît-il, d'une élégante simplicité, d'une distinction achevée. Mrs. Scobble m'a décrit les costumes les plus réussis. Les costumes de voyage, par exemple, pour le voyage de noces en Norvège, sont en drap de waterproof, couleur poussière, brodé à l'aiguille. Aussi sans façon que possible, mais d'un chic qui en rachète l'insignifiance apparente. Conrad et moi avons reçu une des premières invitations. Je voudrais y aller, mais j'ai refusé à cause de ma mauvaise santé. Et à vrai dire, ma chère Violette, cette excuse n'est pas un simple prétexte. Depuis que vous nous avez quittés, ma santé n'a cessé de décliner. J'ai toujours été une créature fragile, vous le savez, même du vivant de votre cher père. Mais dans ces derniers temps, la moindre fatigue m'énerve et je tremble comme une feuille. Je réagis de mon mieux, cependant, pour tranquilliser Conrad. Il est si malheureux, si inquiet quand il me voit souffrante, que je suis bien aise de lui épargner toute anxiété. Votre vieil ami, M. Vaudrey, a l'air très bien et très heureux, mais je ne le vois pas souvent. Croyez-moi, cher, vous avez bien et sagement agi en quittant la maison comme vous l'avez fait. Quelle horrible chose si les fiançailles de Lady Mabel avaient été rompues par suite d'une flirtation inconsidérée entre Rory et vous. C'eût été pour la vie une tache sur votre nom. Les jeunes filles ne songent pas à cela. Je crains fort moi-même d'avoir quelque peu flirté à mes premiers débuts dans le monde, alors que l'admiration était pour moi chose nouvelle. Mais je me mariais si jeune que j'échappais ainsi au danger que vous avez failli courir. Roderick introduit des changements considérables à Briarwood, essayant d'en faire une jolie maison, tâche impossible à mon sens. Toute cette bâtisse est d'une vulgarité qui défie les améliorations et les embellissements. Les serres d'Ashbourne vont être transférées à Briarwood. La collection d'orchidées s'est fort accrue depuis la mort de Jane Vaudrey, et c'est maintenant une des plus belles de l'Angleterre. Mais pour moi, cette manie des fleurs est une passion absurde. Mon cher Conrad me trouve extravagante quand je donne 60 guinées pour une robe. Que dirait-il si j'en donnais autant pour une seule plante? Lord Mallow est à Ashbourne pour le mariage. Depuis ses succès à la Chambre des communes, c'est le lion du jour. Dernièrement, il est venu prendre le thé avec moi. C'est décidément un charmant homme. Ah, ma chère Violette, quel dommage qu'il ne vous ait pas plu. Quelle splendide partie pour vous. Et comme nous aurions été fiers et heureux de ce mariage, Conrad et moi. Violette ferma la lettre avec un soupir. Elle était assise dans son coin favori du jardin en friche des tourelles, sous le figuier aux branches folles. Et de là, elle voyait à ses pieds la vallée verdoyante et les petites villas roses qui reluisaient au soleil. La jeune fille n'était pas alarmée outre mesure des plaintes de sa mère au sujet de sa santé en déclin. C'était l'éternel cri au loup sur lequel les enfants finissent par se blaser. Violette ne se rappelait pas un seul jour où elle n'eût entendu quelque plainte de ce genre. « Pauvre maman, se disait-elle avec une tendresse compatissante. Elle a toujours eu une sorte de coquetterie à se faire passer pour malade, et jamais médecin n'a réussi à découvrir sa maladie. Elle devrait être très heureuse maintenant. Elle a le mari de son choix, et sa fille rebelle n'est plus là pour troubler la paix de son intérieur. J'écrirai à Mrs. Cobble pour lui demander si réellement ma mère n'est plus aussi bien depuis que je l'ai quittée. » Puis les pensées de Vixen allèrent à Rory et aux travaux qu'il faisait exécuter à Briarwood pour sa jeune femme. Ils seraient très heureux ensemble, et ce serait comme si Violette Tempest ne les avait jamais rencontrés. Et pourtant, il m'aimait l'an dernier, il y a juste un an, pensait Vixen, moitié assise, moitié couchée, appuyée contre un banc de gazon, les deux mains jointes au-dessus de la tête. Son livre ouvert gisant sur l'herbe, au milieu des marguerites et des dents de lion qui poussaient là, sauvages et denses, égayant de leur coloration claire le fond vert du jardin négligé. Oui, il m'aimait tendrement alors, et il m'eût tout sacrifié, ses intérêts, son honneur même, le monde entier, si le monde eût été à lui. Se peut-il qu'il ait complètement oublié ce temps-là? Quand ce temps-là est toujours présent à mon souvenir, il paraissait plus aimant que moi-même. Il n'y a qu'un an de cela, à peine un an, et il va se marier. Est-ce que les hommes n'auraient pas de mémoire? Je ne puis croire qu'il aime mieux aujourd'hui qu'il n'aimait il y a un an quand il me demandait d'être sa femme. Mais il a appris la sagesse, il tiendra sa promesse. Il sera le propriétaire de Briarwood et d'Ashbourne, un grand personnage dans le comté. C'est une destination glorieuse, je suppose. Dans ces derniers jours de juillet, une agitation étrange s'était emparée de Violette. Elle ne pouvait ni lire, ni s'occuper de quoi que ce fût. Les longues excursions à travers l'île, qui avaient été autrefois sa seule distraction, étaient maintenant sans charme pour elle. Ennuyée, elle allait du jardin au verger et vice-versa, sans goût, sans idée. Les journées s'écoulaient lentement. Une fièvre d'impatience et de surexcitation coulait dans ses veines. « Après-demain, il sera marié, » se disait-elle le 30 juillet au matin. « Après-demain, Lady Mabel mettra la couronne de fleurs d'oranger. L'église sera toute parée et fleurie de haut en bas. » Et de tous les villages voisins, on viendra en foule pour voir les nouveaux époux. On n'a pas tous les jours la chance d'assister aux noces de la fille d'un duc. Il n'y aura pas le moindre accident. Rien n'empêchera ce mariage, j'en suis sûr. Non, tout ira aussi bien que possible. S'il y avait eu la moindre chose, maman me l'aurait écrit. Miss Skipwith n'était pas une méchante personne, et Violette, auprès d'elle, n'était pas embarrassée de son secret. La vieille demoiselle était si complètement absorbée dans son grand travail sur la religion universelle qu'elle ne voyait absolument rien de ce qui se passait autour d'elle. Les joues pâles, les yeux tirés de Vixen n'attiraient pas son attention, même lorsqu'elles s'attablaient l'une en face de l'autre pour le déjeuner. Elle laissait à Violette une liberté complète. Elle était bien trop préoccupée pour être exigeante. Et puis, elle avait échoué dans toutes ses tentatives pour intéresser Vixen à son œuvre. Aussi avait-elle abandonné toute idée de se faire une compagne et une amie de la jeune fille. Elle la laissait à ses pensées. « Pauvre enfant, se disait Miss Skipwith, elle n'est pas désagréable, mais elle est entièrement dépourvue d'intelligence. Comme elle pourrait profiter de son séjour auprès de moi si elle avait pu me comprendre. Mais elle est vraiment trop peu réceptive. Mes facultés les plus hautes sont impuissantes à secouer son inertie. J'y perdrai mon temps. Elle traversera la vie dans une lamentable ignorance des intérêts les plus importants de l'humanité dans le passé et dans l'avenir. Elle n'a pas plus de cervelle que Baba. » Baba était l'angora de la châtelaine des Tourelles, le témoin muet de ses savantes études. Ainsi, Violette allait et venait où et comme elle voulait. Elle sortait souvent, prenait un livre pour ne pas l'ouvrir, s'installait dans le jardin avec Argus à ses côtés, et personne ne s'inquiétait de ce qu'elle faisait. Elle était bien seule, bien abandonnée. Plus tard, lorsqu'elle serait majeure et libre, quelles espérances pourrait-elle avoir? Personne ne songeait à elle dans ce monde indifférent. À part ma bonne vieille MacCrock, je ne crois pas qu'un seul être au monde s'intéresse à moi. Et encore, son amitié même est bien tiède, pensait Violette. Depuis son arrivée à Jersey, elle avait continué une correspondance avec sa vieille gouvernante, à qui elle avait fait part de ses projets de voyage pour l'avenir. « Aimeriez-vous voir l'Afrique ? » lui écrivait-elle. « Il doit y avoir du nouveau en Afrique. Nous laisserions les chemins battus, chers aux touristes du Cook's Bureau, et nous échapperions à l'ennui de la table d'hôte. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire en Égypte, et vous qui êtes une encyclopédie vivante et ambulante, vous auriez un tas de choses à me dire sur les pyramides, le Nil, le Sérapéum. » Et lorsque nous serions fatigués de l'Afrique, nous irions aux Indes. Nous serions tout à fait indépendantes. Vous avez le pied marin, je le sais. Vous ne seriez pas comme maman que le passage du détroit rendait malade. Elle trouvait quelque consolation à écrire ces lettres, si folles qu'elles fussent. Ses idées de voyage avec Miss MacCrock formaient son seul espoir. Un espoir bien mince, il est vrai. Mais enfin, c'était mieux que rien. La gouvernante lui répondait affectueusement. Elle serait très heureuse de voyager avec sa chère Violette. La vie serait pour elle un paradis. Mais Miss MacCrock n'avait que peu d'enthousiasme pour l'Afrique. Le voyage serait une dangereuse entreprise pour deux femmes seules. Une visite à Alger, à Tunis, même au Caire, était chose faisable. Mais aller au-delà, c'était pour Miss MacCrock de la folie. Sa chère Violette n'avait pas pensé à la température, ni à la possibilité d'être enlevée par les indigènes ou dévorée par les lions. Elle ferait bien de lire les derniers voyages de Livingstone et les derniers rapports de la Société royale de géographie avant de songer sérieusement à un voyage en Afrique. Les longues heures, les lourdes journées, les nuits sans sommeil approchaient de leur terme. L'aurore du 1er août se leva enfin. Une raie de lumière rouge tranchant sur le gris du ciel. De son grand et vieux lit, sur lequel elle était restée étendue toute la nuit sans pouvoir fermer l'œil, Vixen aperçut à l'horizon, à travers la fenêtre sans rideau, ses premières lueurs matinales qui coloraient à l'est les lointains de l'océan. « Salut au jour de noces de Rory !» s'écria-t-elle avec un petit rire nerveux. Et alors, s'enfonçant la tête dans l'oreiller, elle sanglota sans contrainte, bien haut, bien fort. Elle pleura comme elle n'avait pas encore pleuré depuis le commencement de son cruel exil. Elle l'avait bien prévu. Pas le moindre accident pour empêcher le mariage de Rory. Pas seulement le plus petit tremblement de terre. Cette planète sur laquelle nous vivons avait poursuivi sa course accoutumée à travers l'espace. Tout avait marché comme à l'ordinaire, et le grand jour était venu à son heure, sans encombre. Et cependant, se disait tristement Vixen, j'avais comme un vague espoir qu'il arriverait quelque chose. Je n'osais pas me l'avouer à moi-même, et j'y pensais toujours. C'était de la folie. C'était de ma part une faiblesse absurde, mais je m'imaginais qu'il ne pourrait jamais en épouser une autre que moi. J'ai fait mon devoir, je me suis efforcée d'être ferme et courageuse, mais je pensais qu'il arriverait quelque chose. Pauvre fille, parce qu'elle avait été une enfant indisciplinée, elle se croyait brave. Parce qu'elle avait repoussé son amie, elle se croyait forte. Et elle se sentait envahie par une douleur lâche, mordue par de cuisants regrets. L'horizon s'enflammait insensiblement. La raie rouge s'élargissait à l'est, et bientôt le soleil, dissipant les nuages, se montra dans toute sa gloire. Le jour était levé pour tout de bon. Depuis 8 jours, Violette avait renoncé au sommeil. Qui aurait-elle gagné? Le sommeil n'aurait pas même dissipé les images qui passaient et repassaient sans cesse dans son esprit. Et quel fardeau pour son âme que cette pensée qui ne cessait de l'obséder dans son isolement, que ce chagrin auquel personne ne compatissait. À 7 heures, elle se leva, plus lasse qu'on ne pourrait le dire, et s'habilla lentement, distraite, songeant à Lady Mabel. Quel événement ce matin-là que la toilette de la mariée! L'attendrissement de sa mère, l'empressement des servantes, les beaux vêtements blancs dont la fraîcheur luisait au soleil, le luxe de l'appartement, le parfum des fleurs fraîchement coupées, le déjeuner coquettement servi sur une table près de la fenêtre ouverte, les lettres de félicitations, l'arrivée des derniers cadeaux de noces. Vixen se figurait toute la scène, elle la voyait dans ses moindres détails. Et Roderick, comment était-il? Elle ne s'imaginait pas si aisément le compagnon de son enfance, pendant cette matinée qui scellait pour jamais sa destinée. Elle avait beau faire, elle ne pouvait se persuader qu'il fût heureux. Et pourtant, elle n'osait pas le croire malheureux. Mieux valait d'un effort énergique chasser cette apparition familière qui venait hanter son imagination. Oh, la triste cérémonie que le déjeuner de 8 heures en tête-à-tête avec Miss Skipwith. Si absorbée qu'elle fût, comme toujours, la vieille demoiselle ne put faire autrement que de remarquer l'excessive pâleur de Violette. « Ma chère, vous êtes malade !» s'exclama-t-elle. « Vous avez les yeux cerclés de noir, et votre visage est aussi blanc qu'une feuille de papier. »« Je ne suis pas malade, mais j'ai mal dormi cette nuit. » « Ma chère enfant, il vous faut de l'occupation, un but. La vie sans objet que vous menez ne peut que mal tourner. Pourquoi ne pas essayer de remplir vos heures paresseuses d'un projet quelconque à réaliser? Loin de moi l'intention d'entraver votre liberté, mais j'avoue que cela m'afflige de vous voir gaspiller de la sorte tant de jeunesse et sans doute aussi quelques aptitudes intellectuelles. Pourquoi ne pas continuer votre éducation ? Le développement de nos facultés personnelles est la forme la plus haute du progrès. Mes livres sont à votre disposition. « Cher Miss Skipwith, dit Vixen avec ennui, tous vos livres sont théologiques et je ne me soucie pas de théologie. Quant à mon éducation, je ne la néglige pas complètement. Je lis Schiller à en avoir mal aux yeux. Un poète allemand aussi superficiel, répliqua Miss Skipwith. Ne saurait être ni le commencement ni la fin d'une éducation. Je voudrais que vous vous fissiez une idée moins étroite du rôle de la femme dans le monde. « Mon rôle dans le monde, dit Vixen avec un soupir, est de vivre tranquille et de ne troubler personne. » Elle fut bien aise d'abandonner Miss Skipwith à ses livres et de se réfugier dans le jardin. Depuis 8 jours, le beau temps avait été d'une persistance impitoyable. Pas une goutte de pluie, pas un souffle de vent, pas un nuage, toujours le soleil, rien que le soleil. Que ne donnerais-je pas pour un bon orage, avec des éclairs et des coups de tonnerre, soupirait Vixen. les mains jointes et crispées au-dessus de la tête. Cela me distrairait peut-être un peu de moi-même. Cette lumière éternelle, impeccable, est d'une cruauté atroce. La nature est menteuse, elle se plaît à sourire à nos souffrances. Elle n'est jamais plus calme et plus sereine que quand nous avons le cœur meurtri. Je devrais cependant souhaiter un beau soleil à Rory pour son mariage, mais je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et si le ciel s'assombrissait, si la foudre éclatait à l'instant, je danserais de joie et je bénirais la tempête. Elle se jeta sur le sol, la figure cachée dans l'herbe. Et elle sanglota comme elle avait sangloté le matin, la tête enfoncée dans l'oreiller. Nous voilà séparés pour toujours. Cette idée me brise le cœur. Oh, pourquoi n'ai-je pas dit oui cette nuit-là, il y a un an, quand nous revenions ensemble à travers bois? Le bonheur s'offrait à moi, je le tenais dans ma main. Et je l'ai laissé s'envoler. J'aurais été moins coupable en l'accueillant, en acceptant la destinée heureuse qui me souriait, que je ne le suis aujourd'hui en cédant aux mauvais sentiments qui me rongent la poitrine, rage impuissante, haine cruelle pour une rivale innocente. Les cloches nuptiales devaient tinter à ce moment même. Elle s'imaginait qu'elle pouvait les entendre. Oui, l'air pur et léger de ce jour d'été semblait vibrer au son des cloches. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout autour de l'île, elle sonnait follement, éveillant de tous côtés l'écho joyeux de la fête nuptiale. Ses tintements l'obsédaient. Elle voulait se boucher les oreilles, mais les maudites cloches semblaient sonner plus fort au fond de son cerveau. Leur bourdonnement lui emplissait la tête. Elle ne pouvait les faire taire. Et elle se rappelait combien le son des cloches lui avait paru mélancolique le jour de la majorité de Rory. Ce jour dont le début avait été si amer, lui apportant la première nouvelle de ses fiançailles avec sa cousine. Oui, cette nouvelle avait été son premier chagrin. Elle se rappelait son désespoir, sa désolation quand elle l'avait apprise, et la colère s'était emparée de sa jeune âme. « Je n'étais guère encore qu'une enfant, se dit-elle. Il faut que je sois née bien méchante. Mon père vivait encore. Son affection même ne me consolait pas. Je me sentais abandonnée, seule au monde. Étais-je assez sottement folle de Rory? Et après tant d'années, après une longue séparation, n'avoir pas encore réussi à me guérir de cette folie, qu'y a-t-il donc en lui pour que je ne puisse me détacher de lui ? Elle se leva brusquement et, pour s'arracher à cette frénésie de douleur qui l'approchait de l'égarement, elle se mit à parcourir les allées du jardin, appelant à son aide sa raison et surtout sa fierté féminine. « Je m'en veux à mort de cette faiblesse. Je ne m'en croyais pas capable. Étant enfant, je n'ai jamais pleuré quand on me conduisait chez le dentiste. Non, je me raisonnais et je supportais la souffrance avec courage. » Elle revint en courant à la maison, fit irruption dans le parloir, où Miss Kipwis était assise devant sa table à écrire, chargée de livres ouverts, fleurs littéraires dont, abeille de la science, elle aspirait les sucs pour les transformer en miel intellectuel. « Je vous en prie, Miss Kipwis, donnez-moi quelques livres sur Bouddha, » dit Vixen avec une vivacité alarmante. « Je suis entièrement de votre avis, je dois étudier. « Je crois que je vais m'abandonner à la théologie. »« Ma chère enfant, s'écria la vieille demoiselle ravie, grâce à Dieu, le grain que j'ai semé a enfin germé. Du moment que vous avez cette inspiration d'aborder le vaste champ de la science, le reste ira tout seul, il n'y a que le premier pas qui coûte. »« Je ferai bien, je crois, de commencer par Bouddha, » dit Vixen avec résolution. « C'est le commencement du commencement, n'est-ce pas ?» « Non, ma chère, comparé aux prêtres de l'Égypte, Bouddha est presque moderne. Il vous faut commencer par l'Égypte, le berceau de la science et de la civilisation. »« Va pour l'Égypte !» s'écria Vixen impatienté. « Il m'est indifférent de commencer par ceci ou par cela. L'essentiel est d'occuper mon esprit. » »« Ne vous l'avais-je pas dit? Cette pâleur, ces yeux cernés, indiquaient un esprit troublé. » Et quel esprit peut s'affranchir de toute espèce de trouble lorsqu'il reste inactif? nous sommes les créateurs de nos propres chagrins. « Oui, nous sommes de malheureuses créatures !» s'écria Vixen. « Les animaux, eux, sont plus heureux que nous. Pourquoi cela ? Pourquoi le Créateur leur a-t-elle donné à eux le repos et à nous le triste privilège et une faculté immense de souffrir ? Ce n'est pas juste. Ma chère, le Créateur nous a donné une âme, avec le pouvoir de travailler à notre salut, répondit Miss Kipwis. Voici 5 ou 6 volumes. Vous y trouverez l'histoire de la théologie égyptienne, depuis l'âge d'or du dieu Ra jusqu'à la sombre période de l'invasion des Perses. Quelques-uns de ces ouvrages sont purement philosophiques. Je vous recommande de lire d'abord les volumes historiques. Prenez des notes sur ce que vous lisez et n'hésitez pas à me questionner lorsque vous serez embarrassé. « Je crains bien que cela n'arrive souvent, » dit Vixen en empilant les livres sous son bras, d'un air un peu désespéré. « Je ne suis pas très habile, mais je veux travailler. » Elle emporta les livres dans sa chambre à coucher et les plaça sur une grande table que Miss Dodery lui avait trouvée. Elle prépara une feuille de papier pour prendre des notes et commença bravement la lecture d'une histoire très aride de l'ancienne Égypte. Cette journée du 1er août ne voulait pas finir. Le temps avait juré de ne pas se gâter. Dans le jardin, les abeilles humaient le parfum des fleurs sauvages. Là-bas, à l'horizon, les vagues clapotaient gaiement et scintillaient sous les rayons du soleil. Et les cloches d'Ashbourne ne cessaient de tinter. Et bon gré mal gré, Violette les entendait. Elle ne parvenait pas à sauter de la tête cette idée-là. Cependant, les rois pasteurs, les pharaons et Joseph, relativement moderne, et Moïse, ridiculement récent, passaient, ombre légère, vision à peine perceptible, devant son esprit obsédé. Elle se plongeait et se replongeait dans l'histoire de l'Égypte ancienne, et faisait de son mieux pour se contraindre à une tâche pour laquelle, en fin de compte, elle se sentait peu de vocation. Je ne serai pas assez lâche pour penser à lui pendant toute cette journée. Je veux penser au dieu Ra, aux fleurs de lotus, au Nil rouge, au Nil vert, et à tout ce pays vers lequel je finirai bien par entraîner ma bonne vieille Miss McCroak. » Elle lut jusqu'au dîner, s'interrompant seulement par moments pour noter rapidement les dates, les noms, les faits, qui avaient bien du mal à se graver dans son cerveau bouillonnant. Aussi, lorsqu'elle redescendit au parloir, elle n'était plus pâle, elle avait les joues en feu et ses yeux brillaient d'un éclat factice et fiévreux. « Ah !» s'écria Miss Kipwis, enchantée. « Vous avez meilleure mine maintenant, à la bonne heure. Rien de tel que l'étude pour maîtriser les nerfs. » Pendant tout le dîner, Violette parla de l'Égypte, mais c'est à peine si elle mangea, et à mesure qu'elle parlait, ses joues se coloraient plus vivement des rougeurs malsaines de la fièvre. Miss Kipwis l'écoutait avec stupéfaction. Pensait, murmurait-elle, qu'il y avait là endormie, figée tout ce temps-ci, une sève assez vigoureuse pour se mettre en mouvement et faire fleurir tout à coup cette intelligence qui s'ignorait. Ce que la pauvre fille débite d'ânerie est incalculable, mais cette exubérance trahit l'essor encore mal réglé d'un esprit qui s'éveille. Immédiatement après le dîner, Vixen remonta pour piocher encore son Égypte ancienne. Jusque-là, elle n'avait eu qu'une idée assez vague de ce berceau de la civilisation. Un vaste désert de sable, une pyramide ou deux, le colosse de Memnon, des crocodiles, des indigènes au teint cuivré, Antoine et Cléopâtre, elle ne sortait pas de là. C'est à peu près tout le bagage que l'érudition laborieuse de Miss McCroak avait pu transmettre à son élève. Et voici pourtant la pauvre fille ignorante peinant sur les détails les plus secs qui aient jamais intéressé un étudiant d'Oxford ou de Cambridge. Les mystères du triple langage, la pierre de Rosette, les découvertes de Champollion, elle se bourrait la cervelle de tout cela. Aussi étonnez-vous que sa pauvre tête fût sur le point d'éclater et que le son des cloches tinta constamment à ses oreilles. Elle travaillait encore quand sonna l'heure du thé, mais elle s'était si profondément enfoncée dans sa besogne égyptienne qu'elle n'entendit pas la cloche qui, dans cette maison méthodiquement ordonnée, annonçait tous les repas avec une solennité dont les menus n'étaient guère dignes. Le tintement persistant des cloches d'Ashbourne ne lui permettait pas de distinguer le son de la cloche des tourelles. Elle était assise, son livre devant elle, mais les yeux perdus dans le vide, lorsque Miss Skipwith, qui commençait à s'intéresser à son élève, vint s'informer de ses motifs de retard. « Je ne tiens pas au thé, lui dit Violette. J'aimerais mieux continuer mon histoire. Est-ce assez intéressant, surtout les hiéroglyphes ? J'essaye de les déchiffrer. C'est si beau de savoir, par exemple, que cette grue avec une boule noire sur la tête est tout simplement Pharaon, fils du soleil. Et les tables de dynastie, peut-on imaginer rien de plus excitant ? Cela vous fait bien un peu tourner la tête quand il s'agit de remonter autant de siècles en arrière, mais qu'importe. Ma chère, vous travaillez trop. Cela n'a pas le sens commun de commencer avec une pareille impétuosité. Un feu aussi flambant s'éteindra promptement. Festina lente. Il faut se hâter lentement pour faire des progrès durables. Voyez, ma pauvre enfant, vous avez le front tout brûlant. Vous allez vous donner la fièvre. Je crois que je l'ai déjà, dit Vixen. Miss Skipwith lui témoigna une sollicitude inaccoutumée. Elle insista pour l'aider à se déshabiller et ne voulut pas la quitter avant de l'avoir tranquillement étendue dans son lit. Elle allait tirer les rideaux, mais Vixen protesta avec véhémence. « De grâce, laissez-moi le ciel » cria-t-elle. « Du moins aurais-je quelque chose à regarder dans le vide affreux de cette longue nuit. Les étoiles semblent aller et venir, les nuages se déplacent et se transforment continuellement. Sans le ciel, je crois que je deviendrai folle. » Miss Skipwith fut sérieusement inquiète. La première goutte puisée à la source de la sapience avait fait l'effet d'un toxique sur l'intelligence de Violette Tempest. L'opium ou le haschich n'eût pas fait plus de ravages. La jeune fille avait le cerveau pris. « Vous avez étudié trop longtemps de suite. Il ne faut plus que cela vous arrive. Je suis responsable de votre santé envers vos parents. »« Mes parents, » reprit Vixen avec un sourire amer. « Je n'ai plus que ma mère, et pour qu'elle soit heureuse, il faut que je sois loin d'elle. Ne vous inquiétez pas si je tombe malade. Personne ne s'en souciera. » Que je meure, personne ne me pleurera. Je ne suis rien ici-bas. Personne n'a besoin de moi. C'est très mal à vous, ma chère, de tenir un pareil langage, juste au moment où vous allez développer dans votre être pensant des facultés qui feront de vous une des lumières, un des phares de votre siècle. Je me moque bien d'être une lumière ou un phare, dit Vixen avec impatience. Je ne suis pas dans le mouvement. Je ne tiens pas à écrire des lettres au Times. Je ne demandais qu'à vivre heureuse à mon gré. » Là-dessus, elle tourna le dos à Miss Skipwith et demeura si parfaitement immobile que l'excellente vieille fille se persuada qu'elle s'était endormie. « Une bonne nuit la remettra, » pensait-elle, « et demain, ma jeune disciple se réveillera avec une recrudescence d'appétit scientifique. » Consolée par cette certitude, la vénérable évangéliste de la religion universelle s'en retourna à ses études swedenborgiennes.